Vamos até ao Brasil. Começamos com uma canção. Canção de quem? De Chico Buarque, já não data de hoje. Hoje a data dá muito, muito, muito tempo. O poema chama-se Funeral de um Lavrador. É um poema precisamente de João Cabral de Melo Neto.
Palmos medida é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande pra teu corpo defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás lá.
Porém mais que no mundo te sentirás lá.
É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca.
Chico Buarque, Funeral de um Lavrador. Monsieur Mathieu Dosse, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je vous en prie. Alors, cette chanson-là, je pense que, bon, vous savez pourquoi je l'ai passée exprès.
Oui.
Parce que ça fait partie, justement, c'est un poème de João Cabral de Melo Neto, n'est-ce pas? Et Chico Buarque, il a fait tout un travail là-dessus.
Oui, Chico Buarque, en fait, il a mis en musique une des premières versions théâtrales de Mortivier da Sévéline, donc dans les années 60. Il était alors tout jeune, c'était un tout jeune Chico Buarque qui était peu connu, et on a fait appel à lui, et donc il a mis en musique toute la pièce, on peut appeler ça le poème, Mortivier, et ça a eu une répercussion extraordinaire, d'abord au Brésil, et puis ensuite à Nancy, en France, dans un festival de théâtre amateur, où c'est la première fois où Cabral, donc le grand poète brésilien, a pu voir sa pièce mise en scène et mise en musique, ce qui était très étrange pour lui, parce que Cabral n'aimait pas beaucoup la musique, et il le disait assez souvent qu'il ne voyait pas comment on pouvait mettre en musique ses vers, mais il avait été fasciné par le travail de Chico Buarque, et donc voilà, Chico Buarque, il doit beaucoup, enfin, Cabral doit beaucoup à Chico Buarque, parce que c'est après ça qu'il a eu cette répercussion extraordinaire de ce poème.
Alors, ce festival à Nancy, c'était 1966. Alors, voilà, je rappelle Mort et vie Séverine, Mort et vie de Séverine, édition Chandaigne, une édition bilingue, traduction du portugais du Brésil. Bon, ceci peut-être peut expliquer cela. Alors, il faut dire que c'est un texte qui date déjà des années 50, et je pense que c'est la première fois qu'il y a une publication intégrale. C'est inédit en France. À la base, c'était quoi? Je pense que c'était une pièce théâtre, et le titre, d'ailleurs, Alto de Noël, Alto de Natal. C'est quelque chose qu'il avait écrit et que finalement ça avait été refusé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'était une commande en fait. C'était le Tablado qui est devenu après une compagnie de théâtre jeune de Rio très célèbre, mais à l'époque ils venaient de commencer. Et donc ils ont fait appel à Cabral pour un Alto de Noël, c'est-à-dire un jeu de Noël, une scène de Noël. Et pour qu'il puisse jouer, donc que ça soit joué par des jeunes comédiens. Donc Cabral s'exerce à ça. Il écrit sa pièce. Et elle est refusée par la compagnie Tablado parce qu'elle jugeait que c'était trop complexe et que c'était pas possible de mettre en scène. Donc la pièce est restée publiée, mais de manière complètement confidentielle pendant quelques années, pendant 10 ans presque, hein, je crois, si je me trompe pas. elle a été très peu jouée au Brésil. Ouais. Donc c'était, mais c'était une commande. Et Cabral, lui était, lui-même était assez déçu de sa pièce. Il disait oui, je comprends que ça soit pas publié, ça vaut pas grand chose. Et ses amis disaient non, mais c'est un très grand texte. Et lui ne croyait pas. Il a mis du temps à accepter que c'était l'un de ses plus grands poèmes, qui allait devenir ensuite, dans les années 60-70, son poème le plus célèbre et qui était aussi un marqueur de la résistance contre la dictature au Brésil.
Tout à fait. Alors, Mort et vie, Séverine, on peut dire que c'est une histoire d'une migration, parce que finalement, c'est un voyage hein, que le narrateur fait pour chercher quoi ? Chercher une vie meilleure. Alors, le voyage, il suit un fleuve. Est-ce que finalement, il y a des images, un fleuve, c'est pas innocent qu'il l'utilise, qu'il a choisi un fleuve pour faire cette migration ?
Oui, le fleuve est très présent dans toute l'œuvre de Cabral, dans d'autres poèmes. Il a écrit un long poème qui s'appelle O Rio, le fleuve, donc. Et oui, il suit le capibaribe parce que c'est son. Ce personnage, donc, il s'appelle Severino, mais en fait, il représente tous les migrants, tous les Severinos brésiliens. C'est un nom très commun, je ne sais pas si vous savez au Portugal, mais Severino, c'est un prénom très typique du Nord-Est. Et il est très. Voilà, c'est un prénom très commun. Et donc ce Sévelino-là, qui représente tous les Sévelinos, il part de la serre, donc des montagnes, il va vers Recife et poursuit pour le guider dans sa route, il suit le fleuve. Mais le problème, c'est que le fleuve, parfois, ça sèche. Et donc il perd sa route parfois, il ne peut plus la retrouver. Puis il la retrouve ensuite par des petites rivières et voilà, il retrouve sa route. Mais effectivement, le fleuve, c'est un... Cabral a beaucoup écrit sur le fleuve. Enfin, il écrit sur les gens homens caranguejos, les gens crabes qui vivent dans la mare, dans la boue et qui sont d'une pauvreté extrême. Et Cabral était très très attaché à décrire ces gens-là, cette vie-là.
Oui, et d'ailleurs, bon, c'est pas pour rien le titre Mort et vie, Séverine. Oui. Parce que finalement, ça, c'est un tableau. Je sais pas si vous me direz que c'est des sketchs de la vie du peuple de Nord-Est, de certains. Et finalement, c'est la misère, quoi. C'est la misère que les gens y vivent, bon, et qui sont confrontés à tout un tas de choses. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, vous pouvez me le confirmer. Est-ce que ce texte-là, il date des années 50? Eh bien, apparemment, c'était un texte de combat utilisé après 1964 contre la dictature militaire.
Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire, c'est un texte qui décrit, en fait, il y a dans la chanson que vous avez passée de Chico Buarque, les funérailles, donc du labrador, du laboureur, c'est un texte qui dit, voilà, cette terre que tu possèdes pas, donc il dit au laboureur qui vient de mourir, cette terre que tu ne possèdes pas, maintenant tu vas y habiter. Et donc, ce poème de Cabral était aussi, enfin, il peut être lu, disons, même si c'est pas, il peut pas être lu uniquement de ce point de vue, mais il peut être lu comme un texte de combat pour les sans-terres. Et donc, il est et curieusement, et ça, c'est l'une des raisons de son succès aussi, c'est que c'est un texte qui est à la fois un texte de combat, et donc qui se battait contre la dictature, mais qui réussit à passer les mailles de la censure. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour ceux qui jouaient la pièce, parce qu'il a été censuré, hein. Pendant la dictature, parfois, certaines mises en scène ont été censurées, mais d'autres non. Et donc, ça a permis à cette pièce d'être jouée, et donc d'être combattue, d'être utilisée comme un combat.
Combat.
Dans les années 60, 70, en pleine dictature. Et puis ensuite, mais après, la pièce garde toute sa force, même dans les années 80, 90. Et encore aujourd'hui, il y a eu une mise en scène qui a été jouée en France, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas vue, mais c'était il y a 5-6 ans. Donc vous voyez, c'est une pièce qui continue à parler aux gens. Et elle n'a pas pris une ride, c'est ça qui est vraiment très curieux. C'est-à-dire, c'est une pièce qui, on peut la lire aujourd'hui. Moi, je l'ai lue plusieurs fois, évidemment, mais on la lit aujourd'hui. Et ça part du Brésil d'aujourd'hui, ça part des migrants d'aujourd'hui. Ça n'a pas pris une ride. C'est assez étonnant.
Alors, apparemment, il y a un passage de l'enterrement du laboureur. Il y a un dialogue avec une femme qui lui explique que les seuls métiers qui rapportent sont ceux en rapport avec la mort. Donc, il y a une relation, parce que la vie dans la misère et tout ce qui se passait au Brésil, et ça se passe encore dans pas mal de régions, c'est effectivement, on est confronté avec la mort.
Oui, et Cabral fait de... Alors, c'est Cabral, c'est l'un des plus grands poètes brésiliens. comment dire, il utilise le thème de la mort dans tout son récit comme un leitmotiv, c'est-à-dire que la mort est présente partout. Donc Tsevelin, il part parce que là, il est dans un endroit où la mort règne, la sécheresse. Il dit on meurt de vieillesse avant 30 ans. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'espérance de vie est très pauvre. Et en parcourant le certain ou du nord-est, il y a la Kaching, la Grèce, il découvre qu'en fait, la mort est présente partout, même dans la région de la Matte. La région de la Matte, c'est la région boisée, si vous voulez, plus luxueuse. Même là, la mort est présente. Et donc la mort est présente dans tout le texte. À un moment donné, il y a la vie qui apparaît. Bon, ça, c'est une scène qui est l'une des plus belles de la littérature brésilienne. C'est la scène de la naissance d'un enfant, c'est-à-dire dans ce milieu complètement désolé, dans ce milieu appauvri, misérable, il y a un enfant qui naît quand même. Et cet enfant, il représente la vie. Et je ne vais pas vous raconter tout le poème parce que je pense que les auditeurs auront envie de le lire, mais voilà, cet enfant va peut-être donner une note d'espoir à Tsevelin qui envisageait de se jeter du pont, hors du pont et de la vie, c'est-à-dire fora da ponte da vida, c'est-à-dire dans le fleuve. Donc il envisage à un moment donné de se suicider en se jetant dans le capibaribe, dans le fleuve. Et puis peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que la naissance de cet enfant qui est là, qui est plein de vie, de force, une force brute, une force... Alors, il faut lire le poème, hein, parce que la façon dont Cabral en parle est absolument fabuleuse. Voilà cet enfant qui est comme un arbuste cendreux, voilà un arbuste dans la Caatinga cendreuse, il va lui faire changer d'avis, peut-être, on ne sait pas.
Voilà, revenir un petit peu à ce texte-là, je rappelle, ça date des années 50. Hein. Finalement, est-ce que ce texte, ça marque une rupture, en quelque sorte, dans la poésie de Jean Cabral de Melnat, ou pas?
Alors, ça marque. En fait, c'est un texte. C'est le seul texte narratif à part. Il y a un autre texte vers la fin de la vie de Cabral, un peu narratif. Mais c'est l'un des seuls textes importants narratifs de Cabral. C'est-à-dire, Cabral, il a écrit des poèmes absolument fabuleux, mais qui étaient. Alors, comment vous dire? C'est-à-dire que Cabral était dans les années 40 déjà où il écrivait, et au début des années 50, un poète reconnu par les poètes. Donc, il y avait Carlos Drummond de Andrade, qui est un plus grand poète brésilien. Et d'autres poètes qui le reconnaissaient comme un grand poète, mais c'était très confidentiel. Et Cabral, quand il est il était diplomate, donc il est venu habiter très vite l'Espagne, donc près de Barcelone, et puis ensuite à Séville, surtout Séville. Et quand il est en Europe, il découvre en fait le Brésil. C'est curieux, mais c'est en Europe qu'il découvre que le Brésil est un pays pauvre, et notamment le Nord-Est, d'où il vient. Lui, il est né dans le Nord-Est, dans le Pernambouc. Et donc, il va avoir envie de parler à ces gens-là aussi. C'est-à-dire qu'il avait envie de parler aux Cassacos. Les Cassacos, ce sont ces travailleurs de la canne à sucre, donc dans ces grandes ingénies, comme on dit ça en français, dans ces grands moulins, dans ces grandes régions agricoles, d'exploitation agricole. Et donc, Cabral va avoir envie de parler aussi de ces gens-là et à ces gens-là. Et donc, il va simplifier un peu sa poésie. Mmh. Et donc, vous avez raison de dire que ça marque en tout cas pas une rupture, parce qu'après, il revient à une complexité très grande, mais ça marque c'est un élément distinct de son œuvre, sans doute.
Voilà, et que même aujourd'hui, ça marque encore les auteurs brésiliens, ça marque la littérature. Dernière question, Monsieur Mathieu Doss. Ça n'a pas été simple de traduire Jean Cabral de Melnat.
Alors, pour tout vous avouer, oui, ça a été la traduction la plus difficile. Et pourtant, j'étais habitué à d'autres auteurs brésiliens difficiles, comme, Guimarães Rosa, j'ai traduit d'autres auteurs. Mais là, ça a été d'une difficulté ça m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est une écriture qui est absolument fabuleuse en portugais. Et j'ai été tenté à un moment donné de le traduire en rimes, des vraies rimes, mais en même temps, lui ne rime pas toujours. Donc, et la métrique, par exemple, alors c'est un peu technique, mais son texte est écrit en redondile menor, c'est-à-dire c'est des syllabes, des vers de syllabes de 7 syllabes. Mais en fait, c'est pas toujours 7 syllabes, parfois c'est 6 syllabes, parfois c'est 8 syllabes, parfois c'est 5, parfois c'est 4, mais ça tourne autour de 7. Et donc j'ai essayé comme ça en français de donner le rythme, qu'on puisse lire, que le lecteur français puisse en même temps avoir le sens le plus exact, le plus proche du portugais. Et c'est une édition bilingue, donc ça, j'étais très content. Je ne savais pas que ça allait être une édition bilingue quand je le faisais, mais j'ai été très content de l'apprendre, parce que comme ça permet aux lecteurs un peu francophones, les lecteurs qui parlent le français et le portugais, voilà, de temps en temps, ils peuvent tomber sur des mots un peu rares en portugais et ils vont regarder en français. Tiens, ah oui, ça se traduit comme ça.
C'est super. Donc. Et en même temps, c'est gardé, parce que garder la musique de la langue, les Brésiliens, ils ne parlent pas, ils chantent. C'est un petit peu comme au sud de la France. Voilà, et c'est ça qui manque. Les Portugais, on dirait qu'ils sont toujours pressés. Bon, c'est une autre affaire. Mort et vie, Séverine, João Cabral de Melnet, traduction de Mathieu Doss, bilingue. Et le livre est en vente depuis le 17 février. 17, c'était avant-hier. Monsieur Doss, merci, à très bientôt et merci pour votre travail.
Merci beaucoup.
Merci, à très bientôt.